Chapitre 15. Pourquoi les régimes marchent ou pas ? La réponse simple à la question « Pourquoi grossissons-nous » est « Parce que nous mangeons des glucides ». Ni les protéines, ni les lipides ne nous font grossir. Mais alors, comment se fait-il que certaines personnes perdent du poids en suivant un régime pauvre en graisse ? En effet, ces régimes étant assez riches en glucides, ne devraient-ils pas en toute logique échouer à tous les coups ? Nous connaissons tous des gens qui affirment avoir perdu un certain nombre de kilos après avoir adhéré à tel ou tel programme, ou suivi la méthode prônée par tel ou tel livre ou tel coach, et diminué de façon plus ou moins drastique leur consommation de graisse. Les essais cliniques menés pour tester l'efficacité de différents régimes, et notamment l'étude ATOS de l'université de Stanford, que je décrirai plus loin brièvement, montrent en effet qu'un petit nombre de personnes perdent un poids considérable en suivant un régime allégé en matière grasse. Cela signifie-t-il que certains grossissent parce qu'ils mangent des glucides et mincissent lorsqu'ils ne le font plus, mais que pour d'autres, la solution est d'éviter les matières grasses ? Non, vraisemblablement pas. Il y a une explication plus probable. C'est que tout régime efficace l'est parce que la personne qui le suit restreint sa consommation de glucides adipogènes, que cela fasse ou non partie des instructions explicites du régime en question. Autrement dit, les gens qui perdent du poids en suivant un régime parviennent à ce résultat en raison des aliments qu'ils ne mangent pas, les glucides adipogènes, et non en raison de ce qu'ils mangent. Explication. Lorsqu'une personne se soumet à un programme sérieux pour perdre du poids, qu'il s'agisse d'un régime diététique ou d'un programme d'activité physique, elle opère diverses modifications conséquentes dans son alimentation, et ce, quelles que soient les instructions du programme qu'elle a choisi de suivre. En particulier, elle supprime de son alimentation les glucides les plus adipogènes, car ce sont à la fois les plus faciles à éliminer et les plus clairement inappropriés pour quelqu'un qui essaie de retrouver la ligne. Elle arrête par exemple de boire de la bière, ou en boit moins, ou la remplace par de la bière légère. Elle le fait peut-être parce qu'elle veut réduire son apport calorique, mais les calories qu'elle supprime sont des glucides, et plus importantes encore, des glucides raffinés et liquides, c'est-à-dire extrêmement adipogènes. Elle arrête également de boire des sodas et les remplace par de l'eau ou par des sodas light. De la sorte, elle ne supprime pas uniquement les calories de ses boissons, mais aussi le fructose, qui est spécialement responsable de la saveur sucrée des sodas. De même, dans n'importe quel régime, on remplace facilement les jus de fruits par de l'eau. On supprime également les barres chocolatées, les desserts et les pâtisseries. Ici encore, l'idée est généralement de restreindre son apport calorique, et parfois aussi lipidique, mais on supprime du même coup une partie des glucides, et notamment du fructose. Même un régime très pauvre en matière grasse comme le régime Ornish restreint tous les glucides raffinés parmi lesquels le sucre, le riz blanc ou la farine blanche. Ces restrictions pourraient suffire à elles seules à expliquer les bienfaits qui en découlent. Et comme on nous répète depuis maintenant plusieurs décennies qu'il est sain de manger plus de fibres et de privilégier les aliments moins denses en énergie, la plupart des régimes minceurs remplacent les féculents, pommes de terre, riz, etc., et les glucides raffinés, pain, pâtes, etc., par des légumes verts et des salades, ou au moins par des céréales complètes. Lorsque nous réduisons notre apport calorique de manière significative, nous réduisons automatiquement aussi la quantité de glucides que nous consommons. C'est une simple question d'arithmétique. Une réduction calorique de moitié, par exemple, entraîne avec elle une réduction de moitié de notre consommation glucidique. Et comme les glucides constituent la plus grande proportion de calories de notre alimentation, c'est eux qui sont affectés par la réduction absolue la plus importante. Car même si l'objectif est de restreindre les calories issues des graisses, il est extrêmement difficile d'en supprimer davantage que quelques centaines par jour. Il faut donc parallèlement manger également moins de glucides. Les régimes allégés à la fois en graisse et en calories réduisent donc au moins autant, sinon davantage, la consommation de glucides. En bref, à chaque fois que nous suivons un régime amincissant conventionnel, ou que nous décidons de « manger sainement », selon la définition courante d'une alimentation saine, nous supprimons de nos menus les glucides les plus adipogènes, ainsi qu'une partie des glucides totaux. Et si nous perdons du poids, de la graisse, c'est presque assurément pour cette raison. Notons qu'il se passe le contraire lorsque l'industrie alimentaire crée un produit allégé en matière grasse. Elle supprime une petite partie des graisses et des calories que celles-ci contiennent, mais la remplace par des glucides. Dans le cas des yaourts allégés, par exemple, une grande partie des graisses supprimées sont remplacées par du sirop de glucose fructose. Alors que nous croyons manger un yaourt allégé en graisse, bon pour le cœur, qui va nous aider à perdre du poids, Nous mangeons en fait un produit gorgé de glucides et de fructose ajoutée et qui va nous faire grossir. Il est probable qu'il en aille de même de ceux qui assurent avoir perdu leurs kilos superflus grâce à une activité physique régulière. En effet, rares sont les personnes qui se mettent à courir, nager ou faire de l'aérobic 5 fois par semaine pour perdre du poids sans rien changer à leurs habitudes alimentaires. Généralement, ces personnes réduisent au contraire leur consommation de bière, de soda et de sucreries, et certains remplacent également les féculents par des légumes verts. Lorsqu'un régime hypocalorique n'a pas le succès escompté, ce qui est généralement le cas, et on peut en dire autant des programmes minceurs fondés sur l'exercice physique, la raison en est que ce qu'il réduit est autre chose que les aliments qui nous font réellement grossir, à savoir les graisses et les protéines, des nutriments n'ayant aucun impact à long terme sur l'insuline ni sur nos réserves de graisse corporelle, mais dont, en revanche, notre organisme a besoin pour produire de l'énergie et reconstruire les cellules et les tissus qu'il exige. Ce type de régime prive ainsi, au moins partiellement, notre corps tout entier de nutriments et d'énergie au lieu de cibler spécifiquement le tissu adipeux. Quel que soit le poids qui a pu être perdu, le nouveau poids atteint ne peut être stabilisé qu'aussi longtemps que la personne au régime réussit à supporter ce semi-jeûne. Par ailleurs, les adipocytes s'activent alors à récupérer la graisse qu'ils perdent, de même que les myocytes tentent d'obtenir des protéines pour se reconstruire et assurer leurs fonctions. Pour compenser, la quantité totale d'énergie dont dispose la personne au régime est réduite d'autant. En fin de compte, ce que nous enseignent les fondamentaux de la prise de poids, c'est que les régimes amincissants marchent uniquement lorsqu'ils suppriment les glucides adipogènes et échouent dans le cas contraire. Ce qu'un régime doit essentiellement parvenir à faire, c'est re-réguler le tissu adipeux de façon à ce qu'il libère l'excès de calories qu'il avait accumulé. Tout changement d'habitude ne poursuivant pas cet objectif précis, c'est notamment le cas des régimes réduisant la consommation de graisse et de protéines, soumet l'organisme à des privations d'énergie et de protéines nécessaires à la reconstruction des muscles, et la sensation de faim qui en résulte ne peut que conduire à l'échec.